Micro, microscopie, suite. Suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
Vous avez des jeunes qui nous répondent régulièrement dans les quartiers, on ne peut pas trouver un boulot parce qu'on a une mauvaise adresse, parce qu'on a un mauvais nom, ou à connotation étrangère, etc. Et visiblement, ça ne plaît pas, on n'arrive pas à passer la première barrière. Je crois qu'ils ont besoin qu'on mette en place des dispositifs spécifiques en attendant qu'on puisse arriver, je dirais, à une sorte d'équilibre qui deviendrait la norme, donc un traitement normalisé. Donc il faut en même temps, et c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à rattraper le temps perdu et en même temps toujours exiger le retour du droit commun pour le traitement normal et classique comme n'importe quel autre citoyen.
On se retrouve pour la seconde partie de cette émission consacrée à la responsabilité sociale des entreprises. Fadela Mara, vous l'avez certainement reconnue, la secrétaire d'État à la ville, le disait il y a quelques secondes en ouverture de cette seconde partie de Microscopie, les dispositifs pour lutter contre la discrimination sont complexe parfois à mettre en œuvre, et les résultats pas toujours faciles à mesurer d'ailleurs. Pour parler de l'implication des entreprises dans les dispositifs d'accès à l'emploi, nous sommes toujours en compagnie de Patricia Charrier, responsable du pôle entreprise et quartier de IMS Entreprendre pour la Cité. Nous sommes aussi avec Anne Docoua, journaliste, auteure de Quand les entreprises s'engagent en banlieue aux éditions Autrement. Marlène Schiappa a rejoint Antoine Menuisier dans l'équipe du Business Bondi Blog, le supplément économique du désormais célèbre Bondi Blog, et Robin Sapp, le directeur du développement des ressources humaines et de la diversité de l'entreprise de bâtiments et de services. Karine Enjeté-Plus est aussi toujours avec nous. Pour relancer notre réflexion autour des stratégies à mettre en œuvre, je vous propose de retrouver Fadela Amara pour la secrétaire d'État à la ville, le tutorat est l'une des clés de l'intégration des jeunes des quartiers dans l'entreprise.
Vous avez aujourd'hui des chefs d'entreprise qui ont mis des bonnes pratiques qui permettent justement à ces jeunes-là qui avaient des doutes et qui pensaient que c'était pas possible pour eux d'obtenir un emploi. Ces bonnes pratiques et ces bonnes initiatives leur ont permis de rentrer dans l'entreprise. Non seulement de rentrer, mais aussi d'être promu à l'intérieur, c'est-à-dire de développer une carrière professionnelle.
La discrimination est-elle raciale ou sociale d'abord ?
Évidemment, pour moi, la discrimination, c'est avant tout la discrimination sociale. Évidemment, parce que j'ai toujours dit, depuis toujours, y compris quand j'étais présidente de Ni Pute Ni Soumise, que dans nos quartiers, le petit Benoît et les petits Mohamed et Mamadou, ils vivaient les mêmes souffrances sociales, la même exclusion, etc. Donc il ne fallait pas les séparer. Donc je pense qu'il y a des choses en ce moment, des passerelles, qui se traduisent à travers des initiatives très fortes qui permettent justement de dépasser tout ça.
Il y a beaucoup de place qui est faite dans ces initiatives au compagnonnage, enfin une forme de compagnonnage. Est-ce que ça vous paraît important ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez, que vous souhaitez réhabiliter ?
Moi, je pense que c'est très très important parce que je suis très très favorable à tout ce qui ressemble de près ou de loin au parrainage et au tutorat. Pourquoi ? Parce que je pense que certains jeunes dans nos quartiers qui ont perdu confiance en eux ont vraiment besoin qu'on leur prenne la main et qu'on les accompagne étape par étape sur le chemin de l'insertion professionnelle. Et donc, il y a besoin d'avoir un adulte à côté d'eux à qui ils ont confiance, avec qui ils pourront aussi développer un dialogue beaucoup plus serein, à qui ils pourront se confier et surtout avec qui ils pourront construire un vrai parcours d'insertion. Et moi je pense que c'est très très important parce que là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que nous sommes là dans une vraie relation humaine. Il y a des rencontres qui se font à travers ce type de compagnonnage et ça ce sont des rencontres qui amènent à des résultats très positifs.
Robin Sapp, est-ce que le tutorat, c'est quelque chose qui vous paraît, vous, en termes d'intégration dans l'entreprise, dans votre entreprise, est-ce que vous mettez ça en œuvre ? Je crois savoir que oui, et je crois savoir que c'est pour ça que vous avez été, entre autres, félicité par IMS.
Ça permet de créer un véritable moment d'intégration quand la personne va rentrer dans l'entreprise et pour pouvoir trouver ses marques. Alors c'est assez simple, on va valoriser à la fois une personne qui a de l'expérience dans l'entreprise et qui va prendre en charge un jeune en l'occurrence. Alors quand on parle de jeune, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est jeune en âge, mais c'est souvent quelqu'un qui est jeune dans le métier, donc qui va arriver, qui va devoir trouver ses repères. Et bien souvent c'est quelqu'un aussi qui ne connaît pas le monde de l'entreprise. Donc la personne, elle va être prise en charge. Dès qu'elle arrive sur le chantier, elle va suivre cette personne qui va lui montrer au fur et à mesure les différentes tâches à accomplir, mais également le comportement à avoir, les réseaux à se faire, les discussions, les activités auxquelles il faut participer pour s'intégrer au sein de l'entreprise. Et par rapport à ça, ce qui est important, en tout cas pour nous, c'est de donner toutes les chances justement aux personnes qui entrent, de pérenniser, j'allais dire, et de transformer cette entrée dans l'entreprise et de pas seulement dire on va recruter aujourd'hui sur certains territoires et puis ensuite on verra bien si les personnes s'en sortent ou pas. On crée, une véritable méthode pour les intégrer de manière pérenne.
Anne Docoua, votre livre finit par un certain nombre de guide des bonnes pratiques dans différents domaines. C'est quoi un tutorat réussi ?
Alors déjà, il faut pas l'imposer, c'est-à-dire que c'est mieux quand c'est basé sur le volontariat. Ça, c'est la première chose. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il suffit pas d'embaucher des habitants des quartiers populaires, il faut les intégrer. Et que là, on est à un vrai moment crucial dans le processus d'intégration. Il faut les intégrer dans l'entreprise, donc au milieu d'une équipe préexistante qui a, pour certains de ses membres, des idées préconçues sur
Des réticences,
conscientes, voire inconscientes d'ailleurs, hein, parce que tout ça met à plat des idées reçues sur ce qui est différent de soi, quoi, en gros. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et là, tout d'un coup, il y a un choc qu'il ne faut pas le sous-estimer, ce choc, y compris de la part des jeunes des quartiers qui n'ont pas forcément connaissance des codes de l'entreprise. Alors, on peut remettre en cause ces codes. Il se trouve qu'aujourd'hui, il vaut mieux en avoir conscience. Et si adapté. Donc le tutorat, c'est ça, c'est deux mondes qui se rencontrent et que le tuteur peut aider à ce que ça se passe le mieux possible pour le jeune et aussi faire accepter ce jeune, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, hein, je l'ai dit l'autre jour, malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les jeunes dans les quartiers qui ont des problèmes d'embauche, leurs parents aussi. Bon, mais en l'occurrence, les entreprises s'intéressent plutôt aux jeunes, donc c'est une passerelle entre ces jeunes et le reste de l'équipe.
Patricia Charrier, est-ce qu'on peut développer une démarche qui s'applique aux jeunes des quartiers ? Enfin, est-ce que ça ne pose pas un problème de morale publique ? Fadela Amara disait, il faut, et elle expliquait la complexité, on peut rattraper le retard, mais il faut vouloir forcément retomber dans le droit commun. Est-ce que ces dispositifs qui sont en direction des jeunes des quartiers ne sont pas quelque part discriminatoires ?
Moi, je pense que les choses se posent pas forcément comme ça. Je pense que l'entreprise, elle doit recruter sur des compétences. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ces compétences, il faut qu'elle aille chercher ailleurs. Qu'elle ouvre son recrutement, les vannes de son recrutement, qu'elle aille bosser avec une mission locale, avec une association dans les quartiers, qui a des talents, ces talents-là qu'elle recherche. Mais finalement, voilà, c'est d'emblée se tourner vers des structures auxquelles d'emblée on n'aurait pas pensé et intégrer des jeunes issus des quartiers qui ont des véritables talents, qui ont du potentiel, qui se sont bougés pour s'en sortir et finalement qui vont faire merveille dans l'entreprise du moment, comme Anne l'a dit, qu'on les intègre bien.
Robin Saab, c'est quoi vos réseaux, vous, pour trouver ces nouveaux talents auxquels vous n'aviez pas accès avant ?
La spécificité aujourd'hui sur le recrutement, on s'aperçoit que c'est qu'il y a une myriade d'acteurs avec lesquels on travaille. Alors, aussi bien des acteurs de l'emploi que de l'insertion, et aussi bien des acteurs publics que privés. On va travailler avec les ANPE, les missions locales, évidemment les plans locaux d'insertion pour l'emploi, mais également tout ce qui est association de quartier. Et on s'aperçoit également qu'il y a beaucoup de relais qui se font parmi les institutionnels qui, eux, vont demander à des associations qui ne sont pas nécessairement des associations spécifiques sur l'emploi, mais qui vont travailler pour l'intégration des femmes, par exemple, pour l'accès au logement sur différents sujets, et qui vont nous dire, bon, nous, on a des personnes aussi à un moment donné qui ne savent pas comment s'y prendre pour trouver un emploi, qui sont très motivées. Donc, quand on lance des campagnes de recrutement, ben, l'ensemble de ces personnes vont être regroupées. Et puis, on s'appuie énormément, j'allais dire, sur ces dispositifs. Pour quelle raison ? Parce que l'entreprise, au démarrage, elle n'a pas vocation nécessairement à savoir accueillir tous les publics. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est un processus de connaissance. C'est progressif. Et on s'aperçoit que ces relais, ces différents acteurs, ben, ils vont nous aider, nous soutenir, notamment pour tout ce qui est accompagnement social. Et c'est là des principales, j'allais dire, difficultés dans l'intégration, c'est que quand une personne, elle arrive, qu'elle vient de ces territoires, il arrive qu'elle ait également d'autres difficultés. Alors, parfois des problèmes de logement, très souvent des problèmes de transport, on va dire, des problèmes financiers, problèmes de surendettement, etc. Et quand une personne rentre dans l'entreprise, elle rentre également avec l'ensemble de ses problèmes personnels. Pour bien s'intégrer, elle ne peut pas travailler aujourd'hui en ayant, j'allais dire, cette chape au-dessus de la tête, en se disant, bon, c'est difficile, en tout cas, humainement, d'arriver à mener à bien son travail quand on a beaucoup de problèmes périphériques. Et là, j'allais dire, tous ces acteurs vont nous aider. Pour quelle raison ? Bah, parce qu'eux vont connaître exactement vers qui on va pouvoir les orienter. Ils vont également passer du temps pour discuter avec les personnes. Ils vont aller voir chez nous, en tout cas, les employés sur le terrain, les chefs de chantier. Ils vont leur dire, OK, bon, il y a ce problème. Voilà les solutions qu'on peut trouver. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est important, parce que pour nous, ça a été aussi un apprentissage. Au démarrage, quand on était confronté à ces problèmes, un, on a essayé de les régler en direct, et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'expertise. Et puis deuxièmement, on s'est aperçu également qu'en en étant plus souple finalement avec ces personnes, en leur disant ok, on comprend, vous avez des problèmes, ben finalement ça n'aidait pas à leur intégration, mais au contraire on fixe des règles, faut s'y tenir, et puis ensuite s'il y a des problèmes périphériques, on va se trouver des solutions en partenariat avec les acteurs avec qui on travaille.
De quoi ?
Robin a dit quelque chose de très important, c'est que l'entreprise, ce n'est pas une assistante sociale, quoi, en gros. Elle veut recruter des gens qui vont être opérationnels,
efficaces,
et rentables. Et donc, il y a des dispositifs qui préparent des jeunes, notamment ceux particulièrement en galère, en amont. Je pense au programme Défense Deuxième Chance, je pense aux écoles de la Deuxième Chance que Nicolas Sarkozy veut développer. Tout ça, c'est des choses auxquelles l'entreprise peut avoir accès en tant que partenaire local, parce que ça se passe au niveau local, et que en gros, quand la personne, le jeune, est embauché dans l'entreprise, il a été préparé en amont, il y a eu tout un accompagnement social qui fait que a priori, quand il est embauché, il est prêt.
Mais au-delà de ça, comme vous évoquiez tout à l'heure les difficultés que vous pouvez être rencontrées, je crois que le travail aussi que doivent faire les entreprises aujourd'hui, c'est de revoir leurs outils de recrutement. C'est-à-dire que quand on va recruter une personne qui n'a pas eu accès en tout cas à une formation ou au cours de son cursus scolaire, à savoir comment se tenir, comment conduire un entretien, etc. On a quelqu'un qui est très démuni et qui est extrêmement tendu en face de soi au cours d'un entretien. Donc très rapidement, on va dire, bon ben c'est quelqu'un qui n'a pas l'air dégourdi, etc. Si jamais on se cantonne à une conduite d'entretien classique. Et puis en définitive, si jamais on part sur d'autres méthodes de recrutement, on va plus essayer de tester les motivations, essayer d'instaurer un dialogue, essayer d'être dans un cadre un petit peu moins formel. Ben, quelque part, on arrive à avoir des résultats qui sont bien meilleurs et puis arriver en tout cas à identifier les motivations des personnes qui sont, j'allais dire, la première chose qui sont regardées dans le cadre de ces embauches.
Ce que je voulais dire tout à l'heure, Edouard, si vous permettez, c'est que il n'y a pas que l'entreprise qui peut aider en France à l'intégration économique. Il y a aussi d'autres acteurs fondamentaux que sont évidemment les politiques, mais que sont aussi les responsables religieux, par exemple, qui ont une place à prendre. C'est difficile à dire dans un pays laïque qui refuse justement, qui évacue ce religieux, mais je pense qu'il y a des accommodements à trouver avec également ces pôles-là.
Anne Dauquoy, quand on parle de politique de diversité, on a tendance à regarder comment l'entreprise regarde à l'extérieur et comment elle fait venir les gens, mais il faut aussi leur préparer le terrain. Est-ce que dans ce travail que vous avez fait, vous avez vu la préparation mise en place par les entreprises? Est-ce que c'est aussi un travail de formation en interne, j'ai envie de dire, et est-ce qu'il est mené?
Oui, c'est aussi un travail de formation en interne. Oui, il est mené dans un certain nombre d'entreprises. Peut-être pas assez, parce que la difficulté, c'est... On peut avoir plein de bonnes volontés, c'est vrai pour un patron, c'est vrai pour un DRH, mais l'échec, il est terrible. C'est-à-dire que donner de l'espoir, ouvrir une porte et la refermer sur les doigts après, parce que ça n'a pas marché, certains chefs d'entreprise ont témoigné, notamment du fait d'un manque de préparation, il y a des gens qui sont virés ou qui sont partis. Et ça, je trouve que c'est terrible. C'est terrible pour la personne qui part, c'est terrible aussi pour tous ses potes. Hein, parce que l'exemplarité, elle joue à plein, en positif et en négatif. Sofiane, qui est une des personnes à qui j'ai consacré un portrait, qui vient de la Courneuve, la cité des 4000, qui est maintenant directeur adjoint d'une agence de com associative qui s'appelle Nouvelle Cour. Lui, il donne exemple à ses amis et c'est une super opportunité pour les autres d'y croire à nouveau. L'échec, à l'inverse, c'est aussi terrible. Et c'est vrai, je me souviens du délégué général de l'association Ziva à Nanterre qui me disait, nous, on a surtout bossé sur l'aide aux devoirs au début. Et puis, donc, on a amené des gens à aller loin dans les études. Et puis, ils ont galéré pour trouver du travail. Et les petits frères, ils se sont dit, moi, je vais pas m'emmerder à faire mes devoirs vu que mon grand frère ou ma grande sœur, c'est ce qu'ils ont fait, et pour rien. Donc c'est énorme, voilà, l'exemplarité pour les jeunes et pour les entreprises aussi. C'est l'idée du livre, c'est donner exemple et dire ça marche. Là, pour le coup, l'échange de méthodologie, il est fondamental.
Marlène, je sais pas.
Juste pour rebondir sur ce que dit Anne Dauquoy, c'est absolument ce qu'on essaye de faire sur le Business Bondi Blog. Justement, avec cette question d'exemplarité, on fait très régulièrement des portraits. Par exemple, dernièrement, on a fait le portrait d'un jeune de 26 ans qui a monté sa propre entreprise et qui réussit très bien. On a envie, par ce biais-là, de leur montrer tout simplement que c'est possible, de leur donner des exemples positifs.
Patricia Charrier, comment est-ce qu'on mesure la sincérité d'une démarche ?
Alors on la mesure tout simplement en actions mises en place. Je crois que la diversité, ça se décrète pas, on l'a dit, ça se décide au plus haut niveau de l'entreprise, ça se diffuse dans l'entreprise, on sensibilise, on forme et on agit. Donc ça se voit assez vite une entreprise qui a mis en place des actions, alors même si effectivement au départ on est sur quelques chiffres, on est sur un nombre moins significatif, mais plus ça avance, plus finalement on mesure finalement la sincérité de l'entreprise.
Vous pensez que vous avez atteint aujourd'hui la masse critique pour avoir l'effet levier ?
Alors, on a atteint un seuil important. Il reste encore beaucoup de choses à faire.
On le disait au début, hein, l'émission 2000 entreprises dans la charte pour la diversité, 2 millions d'entreprises en France.
Oui, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, de chemin à parcourir. On a du chemin, on a fait beaucoup de choses. Il reste beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas au chômage demain, ça c'est clair.
Anne de Quoi, vous remerciez dans votre préambule, je crois, de ce livre, les patrons qui vous ont fait faire l'économie de votre temps parce qu'ils seraient venus vous voir pour, en gros, exercer le ministère de la parole. Entre ces lignes-là, on voit qu'il y a quand même un marketing de la diversité. Vous pensez qu'il est important ?
Oh bah, il est évidemment important. Moi, il y a des entreprises que j'ai interviewées que j'ai pas mis au final parce que le service communication me saoulait un peu tous les jours pour me vendre leur soupe et que j'ai fini par les enlever. Donc oui, il est important. En même temps, en France, on avance par des symboles. C'est à la charte de la diversité. Il y a des entreprises qui ne font que la signer. Alors, on peut dire qu'elle ça engage quand même et que cette théâtralisation, elle est, je pense, importante parce que ça montre qu'il y a un processus en cours. Alors, elle n'est absolument pas suffisante. Moi, je pense qu'on en est un peu là. C'est-à-dire que, d'abord, il y a eu la peur du gendarme. Maintenant, on est plutôt sur de l'action positive, la HALDE, etc. Les procès qui ont commencé à voir le jour. Maintenant, on est sur du plus positif avec du symbolique. Et on est dans une phase, maintenant, on va dire, d'expérimentation. Voilà. Moi, ce livre, pour moi, c'est une base de données, d'expériences menées. Certaines entreprises n'ont pas encore embauché. Mais elles expérimentent ou elles regardent les autres expérimenter pour s'en inspirer et j'imagine à terme embaucher en nombre.
Vous comptez donner une suite à ce livre dans 3 ans, un bilan ou dans 5 ans ?
Ah bah, si IMS, Entreprendre pour la Cité et mon éditeur adoré le veulent bien, pourquoi pas, oui.
Anne de Quoi, Patricia Charrier, Marlène Schiappa, qui est arrivée un petit peu en retard, Antoine Menuisier, Robin Sapp, merci à vous d'être venus aujourd'hui dans le studio de Microscopie. Je vous rappelle les références du livre de Anne de Quoi, Quand les entreprises s'engagent en banlieue, aux éditions Autrement. Des références, mais vous avez l'habitude que vous retrouverez évidemment sur le site de RFI. Pour le Business Bondy Blog, l'adresse c'est
businessbondyblog.fr.
Le Tour de France, un quartier libre pour l'emploi de l'IMS continue avec 15 étapes en France. Merci à vous tous de votre attention. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous envoyer vos remarques, vos questions et prolonger le débat sur le net. Notre adresse c'est bien sûr microscopie@rfi.fr. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Microscopie, la société au microscope.
I'm just a walking, 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 walking. I'm just a walking, 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 walking. I'm just a walking, walking.
À suivre.